Bonsoir à tous, je vous dis du centre de Mitra Stanilwa et nous voici pour un septième cours concernant la problématique de la rencontre entre la théologie orthodoxe et la science. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui nous interpelle beaucoup, au moins qui interpelle les médecins, mais pas uniquement. Il s'agit de théologie versus bioéthique face au questionnement d'ordre anthropologique. Nous avons ajouté face au questionnement d'ordre anthropologique parce que finalement, on se rend compte que toute la problématique de la rencontre entre les disciplines médicales et la réflexion spirituelle, théologique, mène vers une interpellation, un questionnement concernant qui est l'homme, qu'est-ce que l'homme? Et donc l'homme, selon la vision sur l'homme que je peux avoir, il y a des façons différentes d'agir justement pour soutenir la vie ou non. Parce qu'on voit dans la période contemporaine combien de fois on se pose la question s'il faut absolument sauver la vie ou peut-être aussi choisir de ne pas s'acharner, par exemple, par des moyens thérapeutiques, ou aussi donner la possibilité aux patients de choisir s'ils veulent ou pas continuer leur vie. Donc toute cette problématique est une problématique extrêmement importante pour le questionnement d'ordre théologique. En premier sous-chapitre de notre chapitre d'aujourd'hui, origine de la bioéthique. Je rappelle comme toujours que j'utilise le support de cours théologie orthodoxe et sciences, les défis théologiques de la recherche, que vous trouvez facilement sur amazon.fr ou amazon.com ou n'importe quel Amazon dans le monde. Le premier sous-chapitre, origine de la bioéthique. Il faut voir que dans l'histoire, nous avons affaire avec un code qui est très connu à l'heure actuelle, le code de Nuremberg. Qui identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains. Ce code a été élaboré après la Seconde Guerre mondiale en réaction de la découverte macabre de recherches nazies réalisées dans le laboratoire et qui a imposé la nécessité de mettre une limite à l'avenir humain aux abus avérés de soi-disant recherches de ce type. Il est aussi une tentative d'effectuer une évaluation juridique à leur sujet. En cela, il est un parfait exemple paradigmatique pour notre problématique d'ordre bioéthique. La nécessité d'un cadre éthique général, à l'intérieur duquel la recherche scientifique puisse se développer, a donné naissance au code d'éthique professionnelle, qui s'appuie sur les principes hippocratiques, donc on fait appel à Hippocrate, exigeant de la part des médecins de ne pas nuire. On peut constater que le développement de ces divers codes éthiques a reçu une forte impulsion du fait des progrès scientifiques en général, médicaux en particulier, avec l'apparition des nouvelles technologies, des techniques de production, reproduction assistée, à partir des années 50. Ceci a mené à d'importantes précisions au niveau du concept des principes. Les débats se sont matérialisés dans un ensemble de principes et de règles qui régissent l'acte médical et qui portent le nom générique d'éthique biomédicale ou de bioéthique. Donc, un deuxième sous-chapitre, qu'est-ce que la bioéthique? On peut chercher des définition dans les dictionnaires. Il est évident que la bioéthique est le résultat de tentatives d'évaluation éthique de l'acte médical. C'est une réflexion en recherche visant à donner des éléments de réponse au sujet de l'ensemble de problématiques découlant de la responsabilité morale des médecins et des biologistes dans leurs recherches appliquées. Une autre façon de dire, c'est de constater que c'est la conséquence de la rencontre entre les performances techniques contemporaines, innovatrices aussi, engendrées par les nouvelles technologies, et leur nécessité d'évaluation éthique. Le but est une prise en compte active de la composante morale dans le processus de prise de décision. On imagine, je fais une parenthèse, les ressources limitées dans un hôpital, de quelle façon on peut agir par rapport à un patient qui est entretenu artificiellement en vie. À quel moment on peut découpler le patient de ses appareils ou il faut absolument continuer pour lui donner encore et encore la vie. Donc, c'est des questions vraiment très difficiles. On essaie finalement de tracer en quelque sorte les contours d'une science à caractère moral ou d'une application morale de la science en ce qui concerne le management, la prise en main des vies humaines. Mais après, le caractère moral, ça peut engendrer une réflexion philosophique profonde. Par exemple, si on plonge dans l'univers de René Friedman, qui écrit notamment Dieu, la médecine et l'embryon, je le cherche dans la bibliothèque. Par exemple, on le trouve ici. Voilà. Donc, cet ouvrage, écrit par René Friedman, Dieu, la médecine, l'embryon, constitue aussi une réflexion innovante, on peut dire, par rapport aux conséquences entre la rencontre entre les progrès de la médecine et le questionnement d'ordre religieux des patients. On peut trouver des chapitres. Cet ouvrage n'est pas écrit par une personne croyante, il faut le préciser. Mais par contre, c'est un ouvrage qui ose à poser certaines questions, peut-être même incommodes pour certaines. Certaines personnes à l'heure actuelle, mais a le mérite, le grand mérite de nous faire écouter en la personne de René Friedman, le père, on peut dire, de premier bébé éprouvette ici en France, Amandine. Donc, on a la possibilité d'écouter ces questions et de pouvoir réfléchir et réfléchir. Lorsque nous évoquons la science à caractère moral, nous ne signifions pas par cela que la science puisse par elle-même, dans une démarche d'autosuffisance, accomplir cette lourde tâche. Le dit clairement d'ailleurs le professeur en médecine René Friedman, alors qu'elle prétendait jadis à l'omnipotence, la science pose aujourd'hui plus de questions qu'elle n'en résout. Étonnante sincérité de la part d'un scientifique. À défaut de créer du sens, de dispenser une éthique, et ce fut l'erreur du scientisme que de croire qu'une morale pouvait naître de la science, soulignons-nous, elle fait surgir des faits de sens, guillemets de René Friedman. Elle questionne les grandes traditions philosophiques, religieuses ou morales, les mettant au défi de renouveler leur discours et leurs réflexions. Dominique Lambert, professeur de philosophie à Namur, voit à son tour dans la confusion entre le discours moral et le discours scientifique une des deux facettes du concordisme éthique, attitude à condamner. Voilà, donc la confusion stipule que toute approche de l'éthique doit s'appuyer sur la méthodologie empirico-formelle et les sciences de la nature constituent la seule instance normative solide pour l'agir humain. Terrible. Parce que ça peut engendrer des idéologies. Bon, ce qui nous intéresse, c'est que la bioéthique n'est pas une simple discipline, c'est un phénomène. Se situant donc au-dessus et au-delà d'une simple discipline, puisqu'elle les surplombe toutes de par son horizon d'intérêt, Elle est plutôt une investigation philosophique d'ordre pratique et normatif visant à donner des repères. Pratiquement, la bioéthique médicale actuelle fournit aux professionnels de la santé des règles de conduite vis-à-vis de leurs patients et de leurs confrères, ou encore plus généralement un code de déontologie pour les professionnels des sciences de la vie dans une perspective tenant compte de l'intérêt du patient. Et maintenant, je cite une encyclopédie médicale qui se trouve sur Internet. L'éthique médicale à travers la bioéthique concerne les règles morales qui protègent le malade d'une éventuelle dérive qui pourrait être le fruit de l'évolution des sciences de la vie. Depuis la fin du 19e siècle, cette évolution concerne le domaine de la thérapeutique, avec en particulier la découverte de la radiothérapie, puis plus tardivement la découverte du code génétique et de ses éventuelles applications dans le domaine de la thérapie génétique. Enfin, la notion d'éthique médicale fait intervenir également les règles scientifiques qui imposent au corps médical dans son ensemble, y compris le corps paramédical avec les infirmières, les kinésithérapeutes, les podologues, les orthophonistes, etc., de vérifier que leur attitude médicale dans l'ensemble, et plus spécifiquement leurs soins, sont en adéquation avec des données scientifiques rigoureusement vérifiées. C'est impressionnant. C'est tout un programme de vie professionnelle. Si la bioéthique doit son apparition aux nouvelles données scientifiques, faisant suite aux progrès réalisés de la recherche médicale et en biologie, voire le cas des biotechnologies, elle est dans son essence l'expression concrète d'un besoin croissant, ressenti par la société, celui de pouvoir affronter dans un esprit critique les dilemmes d'ordre moral engendrés par l'apparition des possibilités techniques sans précédent dans le domaine des sciences de la vie et qui investissent les chercheurs d'un bio-pouvoir et les nations d'un bio-capital, mettant en équation avec beaucoup d'inconnus l'intégrité biologique de l'être humain. Née suite aux questionnements concrets suscités par l'évolution des technologies médicales, la bioéthique a un fort caractère applicatif et contextuel, parce que ça sort de la pratique. Ce qui fait une des particularités de sa démarche est qu'elle invite à son travail de réflexion des représentants des catégories sociales et des compétences professionnelles différentes, telles que philosophes, médecins, chercheurs, avocats et, rendez-vous bien compte, théologiens. C'est vrai je fais une parenthèse, nous avons peur d'utiliser le mot théologien, parce que pour nous, dans l'histoire de l'Église, dans la tradition de l'Église, théologien, c'est quelqu'un qui vit Dieu et qui exprime Dieu à travers son propre expérience à lui. Mais disons théologien dans le sens de licence en théologie ou étude en théologie, et bien sûr investissement, plus que cela, investissement concret dans la vie ecclésiale. Donc, je fais la parenthèse, et ceci contrairement à la démarche de déontologie médicale classique qui se cantonne dans les problèmes éthiques des médecins. Donc, je fais encore une parenthèse. Donc, d'ici vient une certaine vitalité de la bioéthique. Le fait qu'on met à la même table, ronde, des gens qui viennent des univers de préoccupations différents, et ensemble, ils engendrent une position, disons, nouvelle, qui exprime le fruit de compétences différentes. Et je vois la présence à cette table, la présence de théologiens, comme la présence de quelqu'un qui exprime une voix prophétique, la voix prophétique de l'Église, c'est-à-dire une conscience aussi des dangers spirituels engendrés par les nouvelles technologies, mais aussi une vision qui peut nous couvrir par rapport à toutes sortes de dérives qui engendrent la souffrance humaine finalement. Cette particularité explique l'intérêt que nous lui portons en vue d'une analyse des rapports entre théologie et science, bien sûr, parce que cette problématique d'ordre bioéthique est par excellence le territoire, le cadre d'une rencontre concrète, issue de la vie, entre le vécu d'ordre théologique, la spiritualité et les produits de la science. Un autre sous-chapitre, bioéthique et théologie. Faut-il parler d'une bioéthique orthodoxe? J'ai eu l'honneur dans ma vie de rencontrer, bien sûr, d'abord à l'Institut Saint-Serge à Paris, le père John Breck, qui a été l'artisan d'un premier cours de bioéthique à Saint-Vladimir, Institut de théologie aux États-Unis. Il était fascinant, en fait, je l'ai rencontré d'abord en Roumanie, il a fait une visite en Roumanie, et à cette époque-là, bien sûr que ça fait plus de 20 ans maintenant, il était le seul spécialiste vraiment dans un domaine qui constituait un vrai défi pour la vie de l'Église. Donc j'ai admiré son courage de pouvoir dire, se prononcer sur des questions extrêmement difficiles et graves. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de réponses. Et donc lui, il a donné ce cours de bioéthique à l'Institut Saint-Serge pour des années et des années. Et donc, je vois en sa personne, et je lui rends hommage, pas uniquement un artisan, mais un des pères de la bioéthique orthodoxe. Donc, le syntagme bioéthique orthodoxe lui appartient aussi, il me semble. Mais on se pose la question à l'heure actuelle, est-ce qu'on doit parler d'une bioéthique orthodoxe? À quoi ça sert d'avoir une bioéthique orthodoxe? On peut facilement constater combien la bioéthique, comme cadre de débat, a pu constituer depuis quelques décennies un lieu propice à une réflexion commune pour les théologiens de divers horizons et les représentants des différents champs de savoir scientifique ou philosophique. Nous comprenons ainsi l'enthousiasme de certains qui n'hésitent pas aujourd'hui à attribuer à la bioéthique la vertu d'une science de frontières, j'utilise les guillemets, capable d'une médiation entre deux modes différents d'investigation du monde, celui de la science et celui de la théologie. J'ai cité un manuel Di Bioethica Helios Graecia, une édition Vita et Pensiero à Milano, 1994. La bioéthique, en faisant intervenir des acteurs provenant d'horizons de compétences différentes, tels que biologie, généticien, philosophe, juriste, sociologue et d'autres encore, sur un projet de réflexion, de dialogue avec les théologiens, encourage d'une façon concrète la rencontre publique, donc pas dans l'espace privé, entre les discours d'ordre éthique, moral, philosophique, scientifique et théologique, et nous percevons ceci comme un signe de dépassement de l'idéologie scientiste. C'est-à-dire, on voit que cette idéologie scientiste, vous souvenez, la science est la seule connaissance véritable, on n'accepte pas une autre connaissance. Voilà. Donc cette idéologie scientiste a émergé dans la modernité. Et donc c'est un signe de dépassement de cette idéologie spécifique à la modernité. Le fait qu'aujourd'hui, des gens d'horizons différents, des préoccupations différentes se rencontrent pour le bien des patients. La réflexion bioéthique se veut le résultat d'une analyse pluridisciplinaire, dont la rigueur évoque en général celle d'une démarche scientifique. Cette exigence est compréhensible si nous tenons compte des habitudes professionnelles des scientifiques. La bioéthique relève pour eux d'une science qui s'occupe des valeurs morales ou d'un champ de recherche philosophique dans lequel on intervient avec le formalisme propre à la réflexion éthique, engendrant ainsi des repères d'ordre descriptif ou prescriptif, régissant le comportement des professionnels des sciences de la vie. Par sa méthode, par ses concepts et ses principes, la bioéthique veut appartenir, au moins dans son intention première, à une démarche d'ordre philosophique en tant que branche de l'éthique, voire scientifique. Et donc, on se pose la question, quel rapport peut-on par conséquent imaginer entre bioéthique et théologie? Ça veut dire quoi une bioéthique orthodoxe? Bon, si on cherche de répondre, nous allons découvrir des choses très intéressantes. Par exemple, le professeur de théologie Constantine Skouteris, grec, observe que surtout dans la pensée des pères grecs, le terme éthos et éthique désignent Le mode de vie chrétien faisant référence à la nouvelle conduite que projette et manifeste l'Église du Christ. C'est très intéressant. Donc, ce n'est pas un mot neutre d'un point de vue ecclésial. Le mode de vie chrétien faisant référence à la nouvelle conduite qui projette et manifeste l'Église du Christ. C'est-à-dire mystère du royaume de Dieu, descendu sur la terre par l'incarnation du Fils de Dieu et la puissance de l'Esprit Saint, qui est l'Église. Donc, ce mystère propose un savoir-vivre, dont le but principal est l'acquisition de l'Esprit, agissant en nous comme prémisse de la vie éternelle. Donc, on ne peut jamais circonscrire cette éthique théologique ancrée dans la révélation à une démarche strictement humaine. Car le but de la vie chrétienne, comparé à tout autre système moral et éthique, procède d'une exigence beaucoup plus profonde, touchant, comme le dit Michel Evdokimov, à la racine de l'être au sens de la destinée. Il s'agit de la transformation de la personne par les énergies vivantes de l'Esprit Saint, de l'Esprit divin. Donc, la vie chrétienne ne se résume pas à une série de préceptes moraux, mais aboutit à une transformation ontologique de la personne, promise à une transformation future dont les prémices irradient sur le visage des saints sur les icônes. Si la théologie ne peut pas être réduite à une science, si cette éthique théologique ne peut pas être réduite à une science, faire une éthique du vivant en tant que science ne peut pas tenir dans une vision orthodoxe. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, c'est de réduire d'une façon trop restrictive l'univers propre à cette possible bioéthique orthodoxe. Donc pour nous, la bioéthique orthodoxe est plutôt une démarche d'ordre théologique, d'investigation d'ordre théologique, y compris à travers les moyens de la science, si possible, mais dans un horizon eschatologique, dans le sens de voir, de choisir, d'exercer un discernement spirituel par rapport au choix concernant la vie humaine. Conscient du fait que les enjeux de la vie ecclésiale sont d'ordre spirituel et de ce que la bioéthique se veut une initiative d'ordre philosophique, voire scientifique pour certains, une bioéthique orthodoxe en tant que réflexion philosophique d'ordre religieux peut être légitime, mais à mon avis non pas suffisante. L'idéal de la bioéthique orthodoxe serait d'ordre existentiel et non pas philosophique. Plus qu'une réflexion, elle devrait proposer des moyens d'agir selon les critères propres à la vie ecclésiale. Elle devrait relever d'une pneumatologie appliquée, ce qui se traduirait dans la pratique par une proposition d'évaluation spirituelle des conduites humaines afin d'apprécier si les décisions prises nous approchent, nous éloignent de l'acquisition du Saint-Esprit. J'accepte que mes propositions peuvent paraître pour certains révolutionnaires, mais en fait le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Donc le but d'une application concrète de la bioéthique orthodoxe, c'est de prendre les décisions qui ne nous éloignent pas de cette présence de l'Esprit-Saint, mais au contraire, qui nous mènent dans les bras, si on peut dire comme ça, de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, faut-il donc construire une bioéthique orthodoxe en tant que réflexion d'ordre spirituel sous les nouveaux défis des sciences du vivant? Ou vaut-il mieux se contenter d'un simple dialogue entre bioéthique et théologie, chacune avec ses propres compétences spécifiques? Il nous semble que, dans la mesure où l'orthodoxie est la seule invitation faite par la société actuelle au débat concernant l'avenir de la personne humaine, face aux enjeux que soulève le progrès de la biologie, sa réponse aux deux questions ne peut être que positive. Que ce soit sous la forme d'une réflexion de bioéthique orthodoxe ou participer à la table ronde des préoccupations d'ordre bioéthique. L'important, quand même, pour un orthodoxe serait de pouvoir laisser se manifester à travers ses compétences naturelles la puissance inspiratrice de l'esprit. Et ainsi, nous osons dire que la bioéthique orthodoxe serait ainsi nécessairement pneumatologique. Au-delà de la prétention des mots qui sont nécessaires à être utilisés par ceux qui font des études en théologie, on comprend bien que c'est la manifestation de l'esprit qu'on cherche à travers nos décisions prises concernant la vie humaine. Au cœur du foisonnement des problématiques de bioéthique actuelle, évoquant un hypermarché des éthiques de tout horizon philosophique et fondé sur des visions anthropologiques véhiculant par surcroît des messages d'ordre politique, idéologique ou autre, comment faire son choix? Comment survivre sous l'emprise du tourbillon du constructivisme moral, de la relativité d'ordre éthique s'installant dans nos sociétés? Comment faire face aux dérives de fondamentalisme qui prend des mesures réduisant l'être humain à l'esclavage vis-à-vis de certains préceptes idéologiques? Je fais encore une parenthèse, c'est une question de bioéthique peut-être, ou de vie et de mort, de voir que dans certains pays, on se permet de prélever des organes sur ceux qui sont condamnés à mort, par exemple, ou, je ne sais pas, faire du trafic des organes dans les zones du conflit. C'est des choses absolument épouvantables qui nous montrent combien la déchirure humaine se traduit par un agissement terrible contre son prochain, que normalement chaque être doit aimer. Tout cela, pour un chrétien, revient à répondre théologiquement à la question fondamentale: quelle éthique pour la bioéthique? Écoutez, on peut dire que l'orthodoxie répond à travers sa, pas sa morale, pas son éthique, mais plutôt sa spiritualité. Plus qu'une morale ou une éthique à forger en tant que réflexion intellectuelle d'inspiration chrétienne, c'est l'assistance de l'Esprit Saint, ni plus ni moins, qu'il nous faut liturgiquement invoquer face au problème d'une gravité exceptionnelle auquel nous allons être confrontés. Cette réponse structure les rapports possibles entre la théologie et les sciences ou philosophie devant les interrogations de la bioéthique. Elle nous rappelle que l'éthique est une discipline qui dépend toujours d'une vision anthropologique de référence. C'est pour cela que nous avons donné le titre de notre chapitre d'aujourd'hui, Théologie versus bioéthique face au questionnement d'ordre anthropologique. Je répète, l'éthique est une discipline qui dépend toujours d'une vision anthropologique de référence. Nos décisions d'ordre moral sont obligatoirement un lien avec notre conception sous-jacente de l'être humain, de sa destinée sur Terre. Donc, nous voulons bien avoir une bioéthique dans la mesure du possible spiritualisée, à la recherche de ce qui est profitable pour le salut de l'homme aujourd'hui. Parce que beaucoup des problématiques de la bioéthique à l'heure actuelle viennent du fait que l'homme, en faisant de la recherche, ne prend plus en compte les repères de cette axiologie, d'échelle de valeur, de cette anthropologie chrétienne. C'est-à-dire, on ne voit plus l'être humain selon ce que Dieu nous a découvert par rapport à l'être humain, et on se sent de plus en plus capable de faire un peu les dieux avec minuscule et d'engendrer la souffrance chez notre prochain. Donc cette problématique qu'on provoque à l'heure actuelle par un agissement non théologique nécessite, au moins de la part de ceux qui vivent en Christ, des corrections, d'un signal d'alarme peut-être par rapport aux dérives, de toute façon de l'exercice d'une conscience ecclésiale qui peut dire où se trouve le bien pour l'être humain, où on perd ce bien. En outre, ce chapitre, les principales directions d'intérêt en bioéthique. La technologie médicale développée depuis les dernières décennies nous a amené des bouleversements dans la façon de considérer les périodes clés de la vie humaine, que ce soit à son début ou à sa fin. Ils ne sont plus perçus comme étant des moments précis, mais plutôt comme des processus, en d'autres termes, comme des évolutions graduelles, avec des états, des seuils par les biais desquels l'être humain change de statut. Ainsi, d'un côté, les technologies d'assistance visant le maintien artificiel en état de fonctionnement des poumons ou du cœur ont rendu plus difficile la détermination du moment de la mort. De l'autre, les techniques de reproduction assistée ont relativisé le statut de l'embryon, considérant le début de la vie humaine comme un processus de passage d'un stade de simple formation cellulaire, immédiatement après la fécondation, considéré par certains comme un stade pré-embryonnaire, à celui d'être humain authentique. Compte tenu de ce qui a été énoncé plus haut, le domaine d'intérêt de la bioéthique se divise tout naturellement comme suit. Premier, 1. Le début de la vie humaine, qui inclut l'avortement, les méthodes artificielles de procréation et les interventions chirurgicales in vitro. 2. Les moyens de soutien de maintien artificiel de la vie, enquête sur les conséquences de l'utilisation des appareils de dialyse et de ventilation respiratoire, de traitements médicamenteux et génétiques, de la greffe d'organes vitaux. 3. La fin de la vie humaine, concerne les soins palliatifs pour les patients atteints des maladies incurables, l'arrêt de l'administration de la nourriture et des liquides, l'euthanasie. Dans une perspective complémentaire, donc il y a deux sources différentes que je cite, on parle de cinq directions majeures: l'éthique de la recherche médicale, hein, le développement de la médecine reproductive, qui soulève la question des droits des personnes sur leur propre corps et sur les embryons qui naissent à partir de leurs cellules reproductives. 2. La définition de la mort. Après 1960, le besoin de redéfinir la mort s'est fait ressentir. Cette démarche a été déclenchée au départ par l'apparition des appareils médicaux de maintien artificiel de l'activité cardiovasculaire ou pulmonaire, dont l'utilisation a rendu le diagnostic de la mort beaucoup plus incertain. Ça, c'était 3. Le problème économique étudie les implications économiques sur les choix des patients, dont certains ne peuvent bénéficier de toutes les ressources médicales qui leur seraient nécessaires. Je fais une petite parenthèse, ça c'était le 4. Si vous avez, je ne sais pas combien de patients qui sont une file d'attente pour greffe d'organes ou pour bénéficier des soins, par exemple, il faut choisir. Choisir, c'est appliquer des principes. Qui peut bénéficier et qui ne peut pas bénéficier? 5. La société et l'individu. Enquête sur les conflits pouvant être engendrés par le refus de se faire prodiguer ou de faire prodiguer à ses enfants certains soins en raison des convictions particulières tenant soit à une pratique de médecine traditionnelle, soit à une appartenance religieuse. Je fais une parenthèse, on a vu les témoins de Jéhovah qui n'acceptent pas les transfusions, par exemple. Il me semble, si je me trompe, pardonnez-moi, mais il y a certaines directions d'ordre religieux qui rejettent ce genre d'intervention, d'où la mort de l'individu. Et quand tu choisis pour toi-même, c'est une chose, mais quand tu as choisi pour ton enfant, en disant que pour des raisons d'ordre religieux, on n'accepte pas dans l'hôpital qu'on fasse comme ça, qu'on fasse la transfusion, c'est terrible parce que quelqu'un meurt à cause de tes convictions d'ordre religieux. On n'entre pas dans des détails ici, c'est tout simplement vous donner une image de la complexité engendrée par cette problématique. Un autre sous-chapitre, le statut de l'embryon humain, un questionnement d'ordre anthropologique. Le développement récent des biotechnologies, par le biais desquelles l'homme contemporain vise la modification, voire l'amélioration, on est très tenté d'améliorer notre condition humaine du vivant, voilà l'amélioration du vivant, ainsi que l'affinement en parallèle du cadre éthique régissant notre société et lui permettant de réagir plus rapidement aux défis d'ordre technoscientifique, ont conduit à un débat public concernant le statut de l'être humain. Ainsi, dans le cadre des préoccupations éthiques contemporaines relatives au commencement de la vie humaine, qu'elle soit in utero ou in vitro, le problème fondamental dont découlent tous les autres semble être la détermination du moment où l'embryon est accepté en tant qu'être humain authentique. je souligne, est accepté en tant que personne avec toutes les conséquences morales et juridiques qui en découlent. Mais oui, parce que... Quel est le statut de l'embryon humain? Donc on se pose la question, qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce qui caractérise l'être humain? À quel moment l'embryon acquiert-il ses caractéristiques lui octroyant le statut légal d'être humain? C'est des questions plutôt du milieu scientifique qui vient devant nous, mais qui ne sont pas nécessairement des questions d'ordre scientifique parce que être humain n'est pas une définition uniquement scientifique. C'est une convention juridique. De toute façon, le professeur René Friedman résume ce genre de questionnement comme ça. Au-delà de la simple définition de l'embryon, c'est notre idée de l'homme, de l'humanité qui se révèle. Nous touchons au problème des origines. Qui suis-je? D'où viens-je? Et peut-être aussi, où vais-je? Car à l'autre extrémité de la vie, la question du respect de la vie humaine, de sa dignité, se pose avec une force, une urgence semblable. Oui, c'est comme en mathématiques, on touche le problème des extrêmes et le problème se pose différemment. Par exemple, dans les nombres à l'infini ou à zéro, ou à un moins infini, la problématique est un peu différente, la problématique des lipides par rapport au problème concernant les nombres. Lorsqu'il considère les extrémités de la vie humaine, que ce soit les instants suivant la conception ou l'agonie, certains scientifiques ou philosophes des sciences mettent l'accent sur le manque d'intégrité biologique et personnelle de l'individu à ce moment-là, et lui refusent ainsi le statut juridique plénier de personne. Mais oui, si par exemple est malade ou enfant de vie, voilà, il n'est plus à la capacité qu'il a eue dans sa jeunesse, par exemple. Donc, à un certain moment, c'est un philosophe de la science, parce que les scientifiques, en principe, ne peuvent pas se prononcer là-dessus, vont vous dire qu'il ne s'agit plus d'une personne humaine, au moins dans le sens plénier du terme. Donc, cette dégradation du statut de personne humaine est terrible, inacceptable pour nous en tant que chrétiens. Que ce soit le début de la vie humaine quand vous avez affaire avec un embryon qui, bien sûr, n'a pas encore tous les caractéristiques de l'adulte, c'est pour cela qu'il est en croissance, c'est normal, parce qu'il va acquérir tout ça. Mais dire qu'il n'est pas encore une personne humaine parce qu'il n'a pas tout, ou dire qu'un malade, un vieillard qui voit une dégradation forte de ses pouvoirs et capacités, dire qu'il n'est plus une personne humaine, ça appartient peut-être à certains philosophes, mais pas à nous en tant que chrétiens orthodoxes. De toute façon, en ce qui concerne l'embryon, son statut actuel reste encore indéterminé, au moins pour certains. Vacillant entre le presque rien des perspectives humanistes athées et le tout ou le presque tout de la perspective des religions. Au moins pour les orthodoxes, c'est tout complètement, pleinement. Donc finalement, autour de l'embryon se rencontrent deux perspectives vraiment différentes, une d'inspiration d'ordre religieux et d'autre d'inspiration humaniste athée. D'où la possibilité de voir un conflit. Et pour certains, le conflit est inhérent. Voilà. On n'a pas le temps d'entrer dans toutes sortes de problématiques. Il y a tout un spectre de problèmes qui peuvent être identifiés. De toute façon, l'embryon, pour finir avec, on constate que s'il y a ce qu'on appelle un projet parental, c'est-à-dire si les adultes, le papa et la maman, s'investissent dans leur embryon, ils le défendent, personne dans ce monde ne peut le toucher, le mettre en danger. Mais s'il n'y a pas de projet parental, c'est-à-dire si vous avez affaire avec des parents qui se désintéressent de leurs fouilles, de leurs entrailles, on peut dire comme ça, tout est possible par rapport à l'embryon. Donc finalement, On ne sait pas exactement qui, dans une perspective orthodoxe, est le criminel, mais celui qui n'accepte pas, qui ne reconnaît pas la vie de l'autre, l'amène finalement, en tant que, voilà, l'embryon, en tant qu'embryon, tu es exposé à la disparition, justement parce que ton papa, ta maman ne t'assument pas en tant que leur enfant. Après, on parle des embryons surnuméraires, c'est-à-dire la fertilisation in vitro a fait qu'on produit des embryons dans un nombre supérieur à ce que nous allons implanter dans l'utérus de la maman. Et donc, les embryons surnuméraires, qu'est-ce qu'on fait avec? En France, on les garde, on les stocke. Elles sont, s'il n'y a plus de projet parental, ils sont destinés depuis 1 an ou 2 ans à la recherche et finalement ils sont détruits. Donc détruire un embryon pour un scientifique ou un philosophe d'inspiration athée, ça veut dire presque rien ou rien. Mais pour un orthodoxe, quand on se rend compte qu'il s'agit vraiment d'une personne humaine qui est très petite, qui a l'âge de quelques jours, mais qui, laissé tranquillement se développer, deviendra nécessairement une personne humaine, un être humain. On n'a jamais vu une grenouille à partir, développée à partir d'un embryon humain. Donc, stocker ou détruire des embryons humains, pour nous, c'est un crime. Bien sûr, qui n'est pas pénalisé par la loi. On accepte bien qu'il s'agit d'une convention juridique parce qu'en France, jusqu'à 3 mois, on peut faire des avortements. Bien sûr qu'on les nomme interruption volontaire de grossesse pour protéger un tout petit peu les oreilles sensibles au questionnement de la mort, finalement, qu'on administre à ces enfants. Mais les IVG, interruption volontaire de grossesse, ne sont ni plus ni moins que décision de tuer son propre enfant. Qui n'est pas mon corps à moi, parce que c'est un être distant de sa maman, même s'il se trouve dans le ventre de sa maman. Et donc, il est évident que si tu ne te trouves pas dans une position nourrie par cette compréhension de la importance absolue, irréductible, on peut dire, de l'être humain, de chaque être humain, tu arrives dans la situation de considérer que, bon, s'il est tout petit comme ça, s'il est insignifiant en tant que volume et quantité dans ce monde, on peut le tuer. Mais non, c'est un être humain qui peut se développer. Donc, on administre aujourd'hui des IVG. Parce que la loi le permet. C'est-à-dire jusqu'à 3 mois, on a le droit, selon la loi, d'interrompre la vie d'un embryon, et à partir de 3 mois, il est interdit. Mais qu'est-ce qu'il fait la différence entre avant 3 mois et après 3 mois? C'est une convention. C'est une convention d'ordre juridique qui n'a aucune base d'ordre scientifique. Qu'est-ce qui fait qu'un embryon, un jour avant, il n'était pas être humain, il n'était pas personne, et immédiatement après, il devient une personne humaine avec tous ses droits? C'est vraiment une convention. Donc, on utilise cette convention justement pour pouvoir décider sur la vie d'un autre, finalement. Pour dire un mot aussi en ce qui concerne l'être humain en fin de vie, on parle de l'euthanasie, c'est-à-dire de la possibilité de s'administrer seul la mort. C'est aussi un questionnement extrêmement épineux dans le sens où on se rend compte que pour nous en tant que chrétiens, vivre jusqu'à sa fin véritable, c'est accepter aussi la croix, de la souffrance, de tout ce qui peut engendrer la dégradation de l'être humain, et qu'on ne peut pas quitter cette croix en se donnant la possibilité de mourir plus tôt, parce que pour nous, on comprend bien que la vie ne nous appartient pas, c'est un don de la part de Dieu qu'on ne peut pas se retirer seul. On va s'arrêter ici pour dire en fait que la bioéthique est un domaine en fait pluridisciplinaire qui est extrêmement important à l'heure actuelle. Oui, parfois on imagine que bon, ça concerne que des spécialistes, même en théologie. Mais non, si on voit les femmes roumaines, par exemple, qui vont en Espagne pour vendre leurs ovocytes, qui vont participer à la conception dans le cadre d'un couple différent, voilà, on a affaire à trois matériaux génétiques, c'est-à-dire le papa, la maman et le matériel génétique venant de cette vendeuse, on peut dire, de matériel humain. Par exemple des ovocytes. Et d'un coup, c'est des problèmes concernant la parition de la vie humaine par la contribution de trois personnes qui dépassent largement le couple béni par Dieu, par le sacrement du mariage qui concerne un homme et une femme. Donc tout cela pour dire combien ce domaine est complexe et que nous avons besoin d'une réflexion sérieuse, approfondie là-dessus. Je dois vous remercier pour votre attention. Je dois vous remercier aussi pour tout ce que vous avez parcouru à travers notre cours concernant la relation entre théologie orthodoxe et science. Il nous faut de tirer des conclusions générales par rapport à tout ce que nous avons pu évoquer dans le premier set séance, et je vous invite chaleureusement de réfléchir vous-même, de compléter les connaissances que vous avez acquises ici par d'autres, des sources complémentaires, et d'engendrer un véritable travail de recherche justement pour pouvoir mieux répondre par rapport aux besoins sentis dans la vie de l'Église aujourd'hui. Je vous dis au revoir à tous.